Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
Vous écoutez Radio Crésus sur radiocrésus.fr. Je suis en compagnie du directeur de Crésus Alsace, Jean-Louis Kiel, et de Michel Knoll, qui est juriste. Nous allons parler aujourd'hui de cas de personnes qui sont en difficulté, qui sont en surendettement. Jean-Louis, pouvez-vous nous présenter en quelques mots l'association Crésus Alsace ?
Crésus Alsace, c'est une association qui a été créée il y a une quinzaine d'années, qui prend de plus en plus d'ampleur dans le cœur et dans de nos concitoyens. L'objet, c'est d'aider les personnes en situation de surendettement. Et vous le savez, avec cette période de crise, l'inadaptation des règles de droit parfois, la difficulté pour certaines personnes qui créent des entreprises de tenir dans le temps, parce que tout s'acharne sur eux, ils ne sont pas toujours prêts non plus. Eh bien, nous sommes une association qui accueillons ces personnes, les conseillons, les aidons, les accompagnons jusqu'à ce qu'ils soient délivrés lorsque c'est possible. Et vous le constatez, nous recevons des appels de toute la France actuellement. Notre association a fait des petits, c'est la Fédération Crésus avec d'autres associations dans d'autres villes, mais nous ne sommes pas présents partout et c'est par le téléphone ou par l'Internet que nous aidons les personnes qui ont des questions juridiques, des questions économiques à nous poser. Et il nous est venu l'idée que tous ces conseils que nous donnons aux personnes qui nous appellent des quatre coins de France, eh bien, puissent être enregistrés, puissent être disponibles sur notre site Internet. On va essayer de mettre ça petit à petit en place et peut-être un jour d'être sur les ondes et que chaque citoyen trouve une radio sur laquelle on parle de ce problème. Non pas seulement d'endettement, mais aussi du crédit en général, qu'on permette à toutes ces personnes de faire les bons choix, de conseiller. On est dans une société qui va vers le développement durable, on cherche un bon rythme qui soit compatible avec une vie sociale de qualité et un dynamisme économique. Voilà un peu l'idée de Radio Crésus. Et tous les vendredis, nous enregistrons des messages qui nous viennent de France et nous répondons aux personnes, nous allons le faire tout à l'heure, aux personnes qui ont des questions à nous poser et que ces questions puissent être, comme on dit, podcastables sur notre site internet, c'est radiocresus.fr.
Oui, et de toute façon, cette émission sera souvent diffusée sur le flux audio de radiocresus.fr, comme vous l'a dit Jean-Louis Kiel. Et nous allons peut-être démarrer avec une première auditrice.
Michel. Allô, bonjour madame. Vous m'entendez ?
Bonjour. Oui.
Ah, très bien.
Ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que il y a quelque temps, je me suis retrouvée donc en chômage. J'ai été licenciée économique.
Mm-hmm.
Et bon, j'avais une vie normale comme beaucoup de gens, quoi.
Oui.
Et donc, à partir de là, je veux dire, les choses ont commencé à dégringoler petit à petit. C'est-à-dire que j'ai retrouvé un emploi 9 mois après.
Mm-hmm.
Je me suis retrouvée à nouveau donc en chômage parce qu'en fait la société pour laquelle je retravaillais a été rachetée, donc ma période d'essai n'a pas été renouvelée.
Oui.
Donc j'étais sur la région de Strasbourg et donc en fait comme je sentais que les choses n'allaient pas bien se passer, j'ai pris les devants. Je suis partie parce que j'avais un peu plus de famille dans le sud de la France. Et disons que à partir de là, si vous voulez, j'ai pu faire face à ce que j'avais à honorer comme paiement, et donc à partir de là, il y a eu les recommandés et autres. Et disons que c'est vrai que déjà le chômage en fait nous met à l'écart des autres, mm-hmm. parce qu'on n'a plus de vie normale. Et le fait à un moment donné de voir que on a de moins en moins d'argent et puis qu'on n'arrive plus à faire face et puis qu'on ne retrouve pas forcément un emploi, je veux dire, ça remet en décalage encore plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je parle plus aux gens normaux, je me cache un peu, et de l'autre côté, je me retrouve complètement seule. J'ai passé quelques mois à plus du tout ouvrir les courriers parce que j'avais peur de ce qu'il y avait. Et je n'ai aucune... Je ne sais plus comment faire, je ne sais plus à qui m'adresser. Et je veux dire, c'est vrai que y a la peur qui a pris le dessus, la peur de... de tout ce qui les ajouts qui j'ai appelé les organismes auxquels je devais de l'argent. Je dois pas des sommes astronomiques, mais c'est-à-dire j'avais une vie autrefois. Donc j'ai appelé ces organismes et on est reçu, mais comme les derniers des. J'ai demandé quelques mois de délai histoire de retrouver un emploi, de payer, puisque mon but a toujours été de payer ce que je devais. Et de l'autre côté, c'est vrai que on a l'impression de plus être un être humain normal, quoi. Donc, et de l'autre côté, on vous menace de plein de choses. Et donc, au plus on est menacé, et puis au moins on arrive à faire face, et au plus on a envie de plus rien voir et le reste, quoi. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que je me sens vraiment très, très seule. Je sais plus du tout. Alors, je sais bien qu'il y a l'organisme de la Banque de France. J'avais cherché un dossier il y a quelques mois, mais c'est vrai que j'avais tellement l'espoir de retrouver un emploi et de pouvoir refaire face à tout ça. Donc, j'ai pas rempli ce dossier parce que le fait d'être fichée pendant quelques années, de plus pouvoir avoir un crédit, pour moi, c'était un crédit qui pouvait me redonner à un moment donné la possibilité de repayer ce que je devais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais plus. Aujourd'hui, malheureusement, je vais percevoir peut-être l'ASS ou le RMI. J'aurais jamais cru me retrouver dans cette situation-là. Et je comprends plus.
Vous avez quel âge, madame ?
J'ai 49 ans.
49 ans, c'est un bel âge. Et vous êtes dans quelle fonction ? Quel est votre métier, madame ?
Donc je travaillais dans le transport international. J'avais un poste de cadre.
Mmh. Donc,
j'ai gagné beaucoup d'argent à ma société. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis assez atterrée par le fait que devant ma situation, j'ai beaucoup, beaucoup de mal et que de l'autre côté, j'ai pu faire face à des choses très, très importantes, à gérer des gens. Et de l'autre côté, moi, aujourd'hui, je suis complètement... En plus, si vous voulez, il y a plein de choses qui se rajoutent. C'est que je suis toujours encore mariée à quelqu'un dont je suis séparée depuis des années, qui gagne très, très bien sa vie. Et je veux dire, c'est vrai que quelque part, je n'arrive pas non plus à comprendre comment j'arrive à me retrouver aussi seule et aussi face à tout ça, alors qu'il y a des gens qui sont aussi quelque part responsables de ma situation et tout le monde. Enfin, disons que je suis quand même, si j'étais pas hébergée aujourd'hui par des amis, je serais dans la rue.
Mmh. Et c'est-à-dire que votre ancien mari ne vous aide pas du tout financièrement ?
Ne m'aide pas. Eh bien, écoutez, c'est simple. J'ai travaillé avec mon ex-mari. Je me suis retrouvée en maladie parce qu'au bout de 14 années à faire cumuler son emploi et le mien, parce qu'il ne faisait pas grand-chose, hein. C'est pour ça que je suis quelqu'un avec un profil assez important. Je me suis retrouvée en maladie. J'ai été mise en licenciement économique abusif.
D'accord, oui, je vois, c'est une situation assez
complexe.
Et mon mari,
si vous voulez, il a très bien vu dans quel état je me suis retrouvée. Disons que le but a été justement que je me retrouve dans cet état pour qu'il puisse m'éjecter. Donc en fait, non seulement j'ai aucune aide, hein, mais de l'autre côté, quand j'étais au plus mal, je n'avais pas ni nombre d'un coup de fil, ni quoi que ce soit. C'est pour ça que, si vous voulez, la situation est d'autant plus... c'est qu'il y a un moment donné où j'ai simplement compris que je m'étais fait avoir dans le sens, j'ai l'impression de n'avoir même pas le droit d'exister, parce que c'est affolant, quoi. C'est...
Non, mais je comprends tout à fait. Qu'est-ce que peut faire Crésus pour aider cette dame ?
Madame,
je peux peut-être juste vous demander ce que je recherchais quelque part, c'est-à-dire qu'en fait j'ai appelé Strasbourg parce que je n'ai pas trouvé du tout, déjà Strasbourg est ma ville natale, hein, c'est une ville où j'y ai passé les 30 dernières années, et en fait, si vous voulez, je suis aujourd'hui dans le sud, et c'est vrai que j'ai recherché un peu, j'aimerais rentrer en contact avec des gens qui sont dans la même situation que moi, parce que justement, les gens autour de moi, je peux discuter de rien, et en plus, ne trouvant pas de travail, après tous les centaines de CV que j'envoie, les gens qui m'étaient plus ou moins proches, pour eux, je ne fais pas ce qu'il faut, alors que je serais prête à prendre un emploi, évidemment, tout ce que je veux, c'est travailler. Donc, si vous voulez, ce qu'il y a, c'est que j'aimerais qu'on me mette en contact avec des gens qui sont dans la même situation que moi ici et éventuellement me dire que si, effectivement, il faut que je remplisse un dossier. Enfin, je sais plus du tout, surtout que je pense qu'il y a des ajouts qui courent et que, effectivement, à un moment donné, je vais peut-être être tellement acculée que même en travaillant, je vais même plus pouvoir rembourser ce que je dois, quoi. C'est affolant.
Josiane, si vous permettez... vous êtes une femme de grand cœur, mais là vous êtes vraiment affolée, et c'est pas forcément en trouvant aujourd'hui ou demain des gens qui ont les mêmes problèmes, parce que vous avez jamais le même profil. Vous avez eu beaucoup de souffrances personnelles, vous êtes une femme d'une grande capacité de travail et vous avez sans doute aussi une pratique multiple de l'activité avec un certain sens de l'autonomie que tout le monde n'a pas parce que vous l'avez travaillé tout au long d'un parcours enrichissant. Donc il faut retrouver vos repères en vous faisant confiance et en disant que les dettes aujourd'hui, ben, vous les oubliez, on va en faire un paquet, on va le jeter à la mer pour qu'il tombe bien bas et que vous soyez libéré sur ce plan afin que vous puissiez retrouver vos propres ailes. Parce qu'avec les compétences que vous avez, tôt ou tard, il y aura quelque chose qui va se déclencher, madame. En premier lieu, il faut vous nettoyer l'esprit de ce qui vous préoccupe, et je le comprends, c'est-à-dire ces agios qui galopent, etc., et vous pensez le galoper après, en faisant face un jour à ce qui, aujourd'hui, est quand même quelque chose qu'il faut accepter. Donc ça passe par une phase donc, de bilan, d'acceptation et en somme d'exécution, c'est-à-dire de vous libérer de ceux qui vous entravent aujourd'hui psychologiquement. Donc vous n'êtes pas dans des bonnes dispositions puisqu'il y a des superpositions de problèmes et il faut commencer à résoudre ceux qui dépendent que de votre bon vouloir. Donc quelle est l'amplitude de votre dette au total, en gros ? 30 000, 50, 100 000 ?
Euros ?
Oui.
Non, non, parce que c'est pour ça justement que j'ai pas donné un,
oui.
J'ai pas rempli le.
Oui, oui, mais si combien, prends, combien, madame.
Si je prends tout, moi je pensais que le jour où je travaillerais, je pourrais faire. C'est,
oui,
c'est dans les 9000 euros.
Mais c'est rien du tout, madame.
Mais non, puisqu'avec un prêt, au bout de 4 années, à raison de 500 euros par mois ou 600 euros par mois,
oui.
Le problème c'est que tout est en train de s'accentuer.
Oui.
Et le problème, si vous voulez, c'est que je dois également de l'argent aux impôts. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup. Parce que j'étais mensualisée. Vu que j'ai dû arrêter, en fait, à un moment donné, les impôts ont. Carrément, j'avais payé 10 mois d'impôts l'an dernier, et en fait, les impôts, comme j'ai pas continué les deux derniers mois, ils ont remboursé à la banque l'argent.
Oui.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, je leur dois la totalité, je veux dire, en face. Et la banque a gardé cet argent. Enfin, c'est
oui.
Quelque chose qui est complètement hallucinant. Donc, en fait, je oui. dois 2 ans d'impôts aujourd'hui, mais c'est pas. Bien sûr que ce n'est pas des sommes astronomiques, mais de l'autre côté, j'ai des mises en demeure, j'ai
oui,
des recommandés que je ne
oui,
prends plus parce que j'ai
oui.
la sensation que je
okay.
n'en sortirai jamais.
Ok, mais aujourd'hui, vous allez reprendre tous les papiers, on va faire le ménage de votre dette. 9 000, ce n'est pas grand-chose, mais c'est énorme quand on est aujourd'hui au niveau de l'ASF ou du RMI, c'est les mêmes montants. L'ASF, vous y aurez droit. Mais il faut en profiter de la circonstance actuelle de vos petits malheurs conjugués pour faire le ménage, madame. Et vous êtes tout à fait dans un profil de rétablissement personnel. Donc, et je pense qu'il faut vraiment prendre le courage à deux mains et oublier un peu, en superposant votre passé riche, n'est-ce pas, même en finances, avec un passé, avec un présent où effectivement vous n'êtes pas dans moyen d'y faire face, si ce n'est en vous projetant dans le futur. Il faut donc être vraiment dans le présent, madame, et prendre ce problème à bras-le-corps pour que dans 6 mois on n'en parle plus. Et là, vous aurez retrouvé vos ailes pour effectivement trouver un emploi, même s'il est de conditions inférieures à ce que vous valez. Je pense qu'on va le voir comme ça et je vous rappellerai, madame. J'ai votre petit numéro de téléphone et je vous prends à cœur et nous referons du travail ensemble afin que vous puissiez redémarrer. On ne va pas dire 9 000, 10 000, 15 000. Vous savez, les dettes aujourd'hui, dès qu'on fait un bilan, eh bien, il est mouvant. Donc, vous maîtrisez plus là. Vous maîtrisez plus, et même si vous aviez maintenant, disons, l'ASF, eh bien, vous aurez dans les 400 euros. 400 euros, vous en avez besoin pour vivre, donc vous ne pouvez plus faire de miracle. Vous n'avez pas cette possibilité, sauf de vous refaire confiance et de faire le miracle sur vous-même, madame. Voilà la meilleure des aides que vous aurez avec notre appui.
Bah écoutez, merci à vous, merci de votre appel. Merci, vous écoutez Radio Crésus sur radiocrésus.fr. Nous allons passer à d'autres sujets.
Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
Brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way
escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and get here today. Picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what's going on? They judge us simply 'cause our hair is long. Oh, you know that we've got to find a way. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Ooh.
Right on. Right on.
Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
Vous écoutez Radio Crésus sur radiocrésus.fr. Nous sommes en compagnie de Michel Knoll et de Jean-Louis Kiel, directeur de Crésus Alsace. Et nous avons actuellement quelqu'un qui s'appelle Dominique et qui veut nous parler de son problème. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Jean-Louis Kiel et Michel Knoll, juriste à Crésus. Nous sommes là
pour
répondre à votre question.
Mon petit souci.
Très bien.
Donc j'ai eu ma grand-mère qui s'est retrouvée en situation de surendettement, qui a donc déposé en Banque de France un dossier.
Oui.
Donc ce dossier a été accepté par la Banque de France et un plan a été soumis. Et malheureusement, un créancier a refusé ce plan. Donc depuis un an et demi, nous étions en attente de passer devant une commission et aujourd'hui, on y arrive. Je voudrais savoir comment ça va se passer et qu'est-ce que je dois faire.
Je laisse la parole à Michel Knoll pour préciser votre situation.
Bonjour Dominique, donc il s'agit de votre grand-mère dont vous vous occupez.
Oui, hein.
Est-ce que votre grand-mère a des revenus importants, monsieur Dominique?
De l'ordre de 1300, 1400 euros.
Donc,
elle
a une capacité de remboursement, hein?
Oui, tout à fait, oui.
Oui, sa capacité est estimée à combien par la Banque de France?
400 ou 500 euros, je pense.
Oui, environ 400 euros. Donc...
Enfin, c'est-à-dire que elle avait des intérêts tellement importants que...
Ça est clair. Tout ça, c'est clair.
Non, le plan qui a été proposé par la Banque de France, enfin, je veux dire, depuis un an et demi, elle paye tout à fait, sans problème, et puis, enfin, tout est revenu dans la normale, si ce n'est que bon...
Donc, le plan est déjà en phase d'application, hein?
Oui, il est en phase d'application.
Et la dette globale est de combien, en gros?
Je crois que c'est de 20 000 euros.
20 000 euros. Et puis, ces créanciers, donc, qui se sont manifestés après coup, Il s'agit donc, je crois, de deux organismes ou quelques organismes de... Quel est l'organisme, n'est-ce pas, qui a donc maintenant des velléités là, de vous embêter et qui n'était pas dans le plan, sans doute, hein?
C'est-à-dire que si, ils étaient tous dans le plan, mais c'est pour une petite somme. Enfin, c'est pour une des plus petites sommes que ça a été refusé. Et alors, vous voulez le nom de l'organisme?
Oui, par exemple, oui.
Cofidis, je crois.
Cofidis. Est-ce que Cofidis était dans le plan pour le montant qui était dû?
Oui, tout à fait.
Alors, qu'est-ce qu'il demande de plus? Si votre en fait, grand-mère
pas,
respecte...
Je ne sais pas si je suis bien clair, parce que ce n'est pas un plan... Enfin, c'est un plan qui nous a été soumis par la banque. Enfin, simplement,
projet
la personne
plan.
Qui s'occupait de notre dossier nous a indiqué quelle somme verser tous les mois. Donc, depuis, on verse cette somme tous les mois.
Donc, c'est le projet, mais il n'y a pas encore de plan définitif d'adopter.
Je pense que oui, c'est ça.
Donc, nous sommes à ce stade. Et un des créanciers, donc, a émis des velléités de s'opposer à ce plan amiable. Est-ce que votre grand-mère a des biens personnels? Elle a une maison, un appartement?
Oui, elle a sa maison, oui, tout à fait.
Donc, voilà, je comprends pourquoi ils s'y opposent. Ils préfèrent effectivement qu'on vende et qu'à ce moment-là, ils retrouvent le plus rapidement. Donc, j'ai tout à fait compris. Votre grand-mère a quel âge?
75 ans.
75 ans. Donc,
et pour un peu revenir dessus, elle a commencé à contrer des crédits un peu comme les gens, et puis elle a commencé à prendre d'autres crédits pour rembourser les crédits qu'elle avait.
Oui, tout à fait classique. C'est une gentille grand-mère qui voulait aider les petits-enfants, comme ça arrive souvent aussi. Donc, dans votre cas, monsieur, il ne faut pas vous en faire, parce que le juge de l'exécution, et vous aurez une convocation donc ultérieure, hein, la grand-mère aura une convocation ultérieure, le juge de l'exécution va écouter les doléances, et compte tenu des dettes qui sont relativement dans une petite moyenne, et compte tenu de la capacité de remboursement de votre grand-mère, qui peut rembourser donc autour de 5 à 6 000 euros par an, il faut le ramener à l'année. Si on multiplie par 4, au bout de 4 ans, il n'y aura plus de dette et votre grand-mère aura 79 ans. Et ça évitera la vente, effectivement, du bien. Et donc, si elle reste en vie, les choses se passeront normalement. Mm-hmm. D'accord? Donc, il ne faut surtout pas avoir peur ou, effectivement, déjà vous imaginer que les choses ne sont pas entendues. Le juge, dans votre cas, vous entendra parce que c'est un dossier qui n'est pas poreux. C'est un dossier tout à fait clair avec des dettes qui peuvent être absorbés effectivement dans le temps sans que votre grand-mère soit démunie de son toit. Donc soyez tranquille et nous garderons le contact Dominique. Si à quoi que ce soit vous nous rappelez, et nous avons donc tout ce qu'il faut pour vous rassurer dès à présent pour la suite de cette procédure.
Hein. Je voudrais rajouter quelques éléments donc pour préciser votre situation, la situation de votre grand-mère. Là, actuellement, vous exécutez le plan avant qu'il ne soit arrêté. C'est excellent parce que ça permettra de démontrer quand votre grand-mère sera convoquée devant le juge de l'exécution et pourra venir avec les avis de paiement et montrer qu'elle est de bonne foi, qu'elle fait déjà un effort et que ce plan ne va pas capoter. Ça va encourager le juge à rejeter la contestation de Cofidis et de dire il faut passer le plan, il faut imposer le plan et la Banque de France aura par la suite la validation du juge et pourra mettre en place un plan définitif que vous exécutez déjà. Donc c'est absolument formidable de la manière dont vous suivez votre grand-mère puisque elle met déjà en place l'exécution d'un plan parce qu'on a beaucoup de débiteurs qui laissent tomber, qui attendent que la Banque de France impose le plan. Vous avez compris?
Oui, tout à fait.
Donc quand vous irez devant le juge, parce qu'il va y avoir maintenant une phase judiciaire, c'est le juge de l'exécution, préparez bien le dossier. N'hésitez pas à nous appeler pour qu'on donne des conseils. Hein.
D'accord. Ben, en fait, j'en suis déjà à cette phase puisque j'ai reçu un courrier m'indiquant que la commission allait se réunir. Et je ne sais pas si j'ai justement des démarches à faire ou...
Vous attendez. Vous attendez que la commission... vous avez été convoqué devant le juge ou le juge a déjà statué?
Non, j'ai pas été convoqué devant le juge, mais j'ai reçu un papier m'indiquant que la commission allait se mettre en marche.
Ah bah alors.
Et que je devais présenter mes observations dans un délai de 15 jours. Mais je ne sais pas si c'est mes observations à moi ou si c'est un papier qui est envoyé génériquement.
Non, il faut... c'est envoyé, c'est une clause de style. Mais ce que je vous conseille, c'est de bien préparer, parce que c'est une procédure orale de toute façon devant le juge d'instance. Hein, il ne faut jamais oublier. Hein. Ce que vous direz a beaucoup de valeur. Vous pouvez transmettre au greffe du tribunal d'instance de Montpellier. Hein. Vous transmettez, c'est le TGI, même, hein, TGI. Pourquoi le TGI? En principe, c'est le juge d'instance. Mais je pense qu'il y a au sein du tribunal de grande instance une section. Et ce que je vous conseille de préparer, de montrer que vous exécutez le plan, d'amener des preuves. Hein.
Très, très bien.
Parce que la décision d'irrecevabilité, en fait, le créancier, comme le disait mon collègue, il cherche à mettre la main sur la maison. Il se dit, il y a un patrimoine qui vaut peut-être, je ne sais pas combien vaut la maison.
De l'ordre de 300 000 euros. Donc,
On ne va pas vendre une maison pour une dette de 20 000 euros. Il faudrait également, à l'occasion, si vous avez la possibilité, vous nous appeler à Crésus parce qu'on a des accords pour les restructurations. Compte tenu de la valeur de la maison, il y a peut-être possibilité de mettre en place une restructuration de ces 20 000 euros avec une hypothèque, malgré l'inscription au FICP. Alors, vous nous appelez au 03 90 22 11 34 et vous demandez Marie Capucine. C'est notre juriste, elle a des documents qu'elle peut vous soumettre et peut-être vous orienter vers un des partenaires de Crésus et vous venir en aide dans cette situation, ce qui permettrait d'apurer peut-être le passif.
D'accord.
Donc vous pouvez faire ça à partir de la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à nous rappeler.
Merci à vous, Dominique. Merci pour votre témoignage. On vous souhaite bon courage et vous inquiétez pas, votre grand-mère va s'en sortir.
Crésus, Crésus, radiocrésus.fr.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis. À présent, t'as sonné l'heure. Des adieux à jamais, je suis au regret de dire que je m'en vais. Oui, je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis. À présent qu'a sonné l'heure. Des adieux à jamais. Je suis au regret de dire que je m'en vais. Oui, je t'aimais, oui, mais comme dit si bien Verlaine au vent mauvais. Les sanglots longs n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais.
Crésus, la radio qui vous aide.
Radiocrésus.fr, vous écoutez Radiocrésus.fr. Je suis en compagnie de Michel Knoll et Jean-Luc Hill, directeur de Crésus Alsace. Michel Knoll, juriste, va prendre un témoignage, celui de Bernard. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Bonjour. Alors, racontez-nous un petit peu ce qui se passe.
Bah, ce qui s'est passé, bon, il y a quelques années, j'étais propriétaire d'une maison en Seine-et-Marne. Et donc, après un an de vie dans cette maison, malheureusement, je suis tombé au chômage. Bon, ça arrive fréquemment. Mmh. Et donc, j'ai été obligé de monter un dossier de surendettement pour pouvoir m'en sortir, parce que ma femme avait un tout petit salaire. Et puis, bon, j'avais des mensualités quand même assez importantes. Donc, j'étais en surendettement pendant 5 ans. Bon, ça m'a coûté quand même assez cher parce que à l'époque, j'avais plus de carte bleue ni de carnet de chèque. Donc, il fallait que je fasse tous les mois des mandats aux organismes, parce que la Banque de France avait bien renégocié tous mes crédits. Donc, ça me faisait des petites échéances. Alors, ce qui s'est passé, c'est que celui qui m'a prêté effectivement au niveau de ma maison avait mis en place au départ, bien sûr, un taux de crédit assez important. Et donc la Banque de France me l'avait renégocié à la moitié. Hein. Donc j'étais à 11,50 et j'étais passé à peine à 6. Donc pendant cette durée de surendettement, la BNP n'a pas tenu compte de ce taux de 11,50 et me comptait effectivement des intérêts de retard, déjà pendant les 5 ans du dossier, qui a été clôturé jusqu'au bout parce que j'ai payé au moindre centime. Et après ce dossier, donc comme le taux avait été renégocié par la Banque de France, il était resté à 6,60. La BNP, enfin bon, sans les nommer, a continué à imposer ce taux à 11,40. Donc je leur ai envoyé des lettres recommandées en leur disant que c'était pas possible, que la Banque de France avait renégocié le taux. Mais tous les mois, ils me comptaient sur 11,40 au lieu de 6,50. Donc effectivement, il y avait des différences importantes au niveau des échéances. Donc j'étais toujours en retard. Et le capital ne diminuait jamais. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été obligé, il y a 2 ans, de vendre ma maison pour diverses raisons, entre autres pour mon fils qui partait sur Aix-en-Provence pour commencer ses études supérieures. Donc, on l'a suivi. J'ai vendu ma maison. Donc, la BNP a été bien contente. Mais quand j'ai vu le chèque du prix de vente par rapport à la BNP, ce qu'il me réclamait, j'ai touché pratiquement rien. Donc, un an après ça, donc l'année dernière, j'ai envoyé des recommandés à la BNP en précisant que j'exigeais la différence des intérêts déjà pendant le dossier de surendettement, donc ça a duré 5 ans. Et au bout d'un an, donc en octobre 2007, l'année dernière, effectivement, j'ai reçu des recommandés en me disant que exceptionnellement, il faisait un effort commercial et il me remboursait la différence sur ces 5 ans. Donc effectivement, j'ai touché à 20 000 euros, enfin à peu près. Mais là maintenant, ce que je leur demande, parce que moi ce que je voulais, c'est la totalité des intérêts jusqu'à la vente de ma maison. Et là, donc j'ai renvoyé encore des lettres recommandées. Au jour d'aujourd'hui, je suis toujours en lettres recommandées avec eux. Et là, ils me répondent que effectivement, la maison a été vendue, mais que bon, le dossier était clos. Qu'ils m'avaient remboursé le maximum qu'ils pouvaient et ils ne pouvaient pas faire autre chose. Et du fait que la dernière année de la vente de ma maison, parce que je l'ai vendue en décembre 2007, et donc effectivement au mois d'avril 2007, je ne pouvais plus effectivement encore une fois rembourser comment la maison. Donc ils me mettent en avant que parce que j'ai pas réglé correctement les 7 derniers mois, ils ne pouvaient rien faire, quoi. Donc au jour d'aujourd'hui, j'en suis là, donc j'ai besoin d'un conseil de part si je peux faire quelque chose ou si je peux rien faire, quoi.
Ben, Michel Knoll va vous orienter.
Oui, j'espère que j'ai été assez clair. Bon, c'est vrai que c'est pas simple parce que voilà, quoi.
Non, c'est clair, monsieur Bernard. Donc, vous avez déjà beaucoup souffert dans cette situation où, en fin de compte, 7 mois avant l'échéance, donc la fin de ce plan, il y a eu une rupture de plan, puisque vous ne pouviez plus assumer le plan tel qu'il était conçu des années avant, que vous aviez respecté jusqu'à 7 mois avant la fin de ce plan. Donc il y avait une résiliation du plan. Dès que le plan n'est plus respecté, il y a résiliation du plan et on tombe dans le droit commun. C'est-à-dire le contrat reprend le dessus. Et c'est ce qui s'est passé dans votre dossier. C'est pourquoi ils ont réintégré le taux contractuel qui était à l'origine effectivement de 11,40, 45 hein, ou 86. Hein. Donc ils ont réappliqué ce taux. vous avez donc réclamé, etc. Et donc, ils vous ont fait un chèque pour les intérêts qu'ils avaient à tort calculés dans leur décompte depuis le début du plan. Et au lieu de calculer à 11,84, à 6,65, ils l'ont appliqué depuis le début du plan, dans le décompte qu'ils vous ont effectivement soumis lorsque vous étiez plumé. Eh bien, ils vous ont remboursé depuis le début du plan la différence des intérêts qu'ils ont à tort calculé. Hein. Mais à partir effectivement du jour où le plan a été résilié, le droit commun reprend le dessus et là on n'est plus dans le plan mais dans le cadre contractuel et de résiliation effectivement non seulement du plan mais aussi confirmation de la résiliation du prêt avant effectivement que vous fassiez le dossier Banque de France. Donc oui. Si vous voudrez guerroyer, vous auriez à mon sens très peu de chance et de toute façon même ce qui est avant le plan, donc là, le taux d'intérêt contractuel s'applique. Donc là, vous ne pourriez pas les amener à la raison, effectivement, de réduire leurs prétentions au taux minimal, donc de la Banque de France, à l'époque où votre plan, début des années sans doute 2000, a été mis en route.
Tout à fait, oui.
Oui, donc je ne peux pas vous conseiller là de faire de l'action judiciaire a priori, parce que vous aurez quelques années de procédure avec beaucoup de frais, sans avoir la chance, disons, maximaliste d'arriver à un résultat concret. Non, je ne peux pas vous encourager à cela.
D'accord. Bon, bah écoutez, j'ai eu le renseignement que je voulais. Alors. D'accord.
Merci pour votre témoignage.
Écoutez, merci. Hein.
Merci.
Je vous en prie.
Merci à vous, Bernard. Vous écoutez Radio Crésus. On va écouter un peu de musique. Écoutez Radio Crésus et nous avons un nouveau témoignage, celui de Françoise qui nous a appelé au 03 88 16 19 69. Bonjour Françoise.
Bonjour monsieur. Je ne sais pas si c'est monsieur ou maître qu'il faut vous dire.
Alors moi je ne suis pas le maître, mais vous êtes en compagnie de Michel Knoll qui est maître
oui.
Et de Jean-Louis qui est...
Comme on m'a dit que vous étiez juriste, j'ai dit je ne sais pas si c'est messieurs, on doit dire maître ou monsieur.
En général on dit maître, c'est vrai, mais vous pouvez dire messieurs ici.
Ah, très bien, vous avez 72 ans, Françoise, hein ?
Oui.
Et vous êtes encore embêtée par ces microbes du surendettement.
Oui.
Donc, vous aviez fait un plan Banque de France, une demande, une déclaration hein, de surendettement.
Oui, j'ai fait une demande de dossier de surendettement à la Banque de France. Enfin, c'est le notaire qui m'a conseillé de faire ça, parce que si vous voulez, tous les problèmes que j'ai proviennent que lorsque j'ai fait l'acquisition de cette maison, le notaire, comme je suis toute seule, m'a demandé qui je voulais mettre. J'ai dit que j'ai deux enfants, mais j'ai une fille qui pose plein de problèmes. Donc j'ai dit qu'on mette mon fils. Et moi, je pensais, en mettant mon fils, qu'il allait mettre que le bien reviendrait à M. Bruno de Vigny le jour où je viendrais disparaître.
Oui, d'accord.
Mais a priori, c'est pas du tout ça qu'il a fait. Moi, il m'a donné, mais sans m'expliquer rien du tout, il m'a donné l'usufruit et à mon fils, il a donné la nue propriété. Mmh. Alors bien sûr, la Banque de France part là-dessus en disant que j'ai organisé mon insolvabilité.
Oui, d'accord. Donc,
alors que je n'ai rien à... comment voulez-vous, j'ai acheté la maison en 2004. Cette maison, ça a été une erreur, mais si vous voulez, l'achat a été fait très rapidement parce que j'ai pris chez moi ma mère adoptive, une dame qui avait 100 ans. Et l'appartement que j'avais sur Clermont-Ferrand, un F2 bis, ne pouvait pas faire pour reprendre une personne comme ça chez moi. Donc cette maison a été achetée un peu en catastrophe. Et bien sûr, on a découvert tous les problèmes qu'avait cette maison, toutes les failles au point de vue entretien, tout ce qu'il a fallu faire comme travaux, après. Mais ça, bon, j'en ai payé des travaux au départ. Et c'est parce que cette personne est décédée début janvier 2007, que je n'avais plus les mêmes ressources parce que on avait fait un dossier d'appât et ce dossier d'appât me rapportait tous les mois par rapport aux soins que je lui prodiguais 700 euros par mois. Donc les 700 euros plus ma retraite, je n'avais aucun problème pour gérer et payer ce qu'il y avait à payer. Mais cette personne est décédée, donc je me suis retrouvée avec juste ma petite retraite. Et je m'en sors pas. J'ai essayé de retrouver du travail, j'ai essayé de faire plein de choses, de mettre des affichettes. Là, j'ai même encore fait autre chose. Je fais passer une annonce comme quoi je prendrai une personne, même que pour l'hiver, chez moi, à qui je donnerai en pension complète. Pour essayer de dire, ça va me donner un peu d'argent et je vais pouvoir honorer ce que j'ai à honorer. Mais même ça, ça n'a pas l'air de fonctionner.
Oui, je comprends.
Alors là, je suis dans une... Parce que je suis à la veille, j'ai reçu des courriers d'huissier parce qu'il y a un créancier qui a déposé le dossier chez un huissier. Mmh. Et je me suis renseignée et je suis peut-être à la veille, comme je ne peux pas payer, qu'on vienne me saisir des choses chez moi.
Mmh. Écoutez, madame, c'est très bien, Françoise. Donc, vous avez acheté cette maison il n'y a pas longtemps, le financement, vous avez sans doute pris un prêt.
Je vous entends mal, là.
Vous avez pris un prêt?
Pour l'acquisition de la maison?
Oui, madame.
Non, elle a été payée cash.
Payée cash. Et vous oui. avez pris des prêts...
Les crédits que j'ai, ce sont des crédits par rapport... j'ai fait refaire l'isolation de la des combles, une cheminée qui a été refaite, des fenêtres...
Oui, je comprends, on va aller...
Isolantes.
Oui,
vous voyez, ce sont que des travaux d'amélioration de la maison.
Oui.
Mais il n'y a aucun crédit qui soit des crédits à la consommation.
Non, j'ai compris, la moralité est sauve. Vous avez fait ce qu'il fallait avec cette maison qui a réservé des surprises. Hein. Et donc, je vous demande, quelle est l'amplitude, quelle est l'ampleur de ces prêts divers?
Oh, je vous entends mal. Oh là là.
Combien de prêts vous aviez pris au total, madame?
Au total, ça fait 25 000 euros.
25 000 euros, c'est une grosse somme. Hein.
Oui, mais si vous voulez, il y a 4 prêts.
4 prêts, oui. Et sur quelle durée ils sont et quelles sont les échéances mensuelles?
Des échéances mensuelles, alors il y a Franc Finance, les deux prêts font 228 euros par mois.
Franc Finance, vous en avez deux, hein?
Oui, il y a deux.
Deux, et au total, vous payez combien par mois?
228.
228, et quels sont les autres prêts?
Alors il y a Financo.
Financo, vous...
Il y a deux prêts, 160 euros.
Pour les deux, hein?
Oui.
160.
Et lorsqu'il y a, j'ai fait une erreur monumentale parce que quand j'ai vu que j'étais acculée, j'ai dit je vais peut-être m'en sortir. J'ai pris un prêt à Monabank.
Mona Bank. Donc
oui,
vous avez.
Alors là, je rembourse 60 euros par mois. Mais alors là, c'est la plus grosse bêtise que j'ai faite de ma vie. Pour la bonne et simple raison, c'est que quand sur 30 euros que je verse, enfin bon, on double, par le fait, sur le montant du crédit que j'ai pris, je ne rembourse que 2 euros. 2,28 euros. Parce que tout le reste est pris pour les intérêts.
D'accord, madame. Oui, je comprends. Donc, en final, vous avez deux francs finance, vous avez deux financo et un monabank, hein?
Voilà.
Et vous remboursez 228, 160 et 60 euros, hein?
Voilà.
Et au total, vous remboursez, vous devriez rembourser 448.
468 euros.
400, allez, 468 par mois. Et la retraite oui. est de combien, madame?
Comment?
La retraite, c'est combien
Ma
par mois?
La retraite mensuelle, elle est de 554,87 euros.
554, et vous n'avez pas de complément de retraite? Rien du
si,
tout?
Si, j'ai des complémentaires qui, tous les trimestres qui s'élèvent à 833,43
euros. Donc,
ce qui fait, quand on le divise par 3, ça me fait 832 euros par mois. Mais actuellement, ben, c'est ce que je voudrais faire, arriver à pouvoir les scinder en 3, de manière à rajouter, mais avec tout ce que j'ai qui traîne, parce qu'il y a l'assurance de la voiture, il y a l'EDF, il y a tout ça, et ben, quand les complémentaires arrivent, ben, elles sont mangées tout de suite.
D'accord, madame.
Je n'arrive pas à pouvoir à faire que ça soit partagé en 3.
Votre fils.
De compte où je marque tous les mois toutes les dépenses et tout, mais c'est pas possible.
Votre fils, madame, il travaille, il gagne de l'argent.
Mon fils, ah oui, mais de toute façon, faut pas se compter sur mes enfants, hein.
Non. Qu'est-ce qui fait votre fils, madame?
Il travaille dans l'aéronautique.
Oui. L'aéronautique, il gagne de l'argent, lui. Il est marié, il a des enfants.
Il est divorcé avec un enfant.
Divorcé, un enfant. Madame, donc vous avez... avec le prêt et tout cela, je pense qu'il n'y a pas de solution, car effectivement, compte tenu qu'il n'y a plus cette recette de votre mère adoptive, qui est malheureusement décédée un peu tôt, malgré 100 ans, c'est un bel âge, je vous souhaite aussi d'y arriver, mais dans la quiétude et la paix. Si votre fils, vous pourriez dire, écoute, je renonce à l'usufruit et tu payes effectivement les 24 000 par un prêt, je reste comme locataire et je paye un petit loyer. 24 000...
C'est moi qui ai l'usufruit.
Oui, mais vous lui laissez aussi l'usufruit, donc vous serez carrément un occupant de cette maison comme un locataire et vous paierez un petit loyer, madame.
Ah oui, mais ça, il ne faut pas que je compte qu'il veuille faire quoi que ce soit, parce que la maison est en vente et je peux vous dire qu'il n'arrête pas de me harceler, que je n'ai pas pensé qu'il avait un petit garçon et patati patala. Il ne me donne pas un centime. Hein.
Oui, parce que normalement, il aurait tout intérêt, parce que trouver la maison à 24-25 000 euros, elle vaut combien? Et quelle est la valeur de la maison, madame?
La maison a été évaluée à 180 000 euros.
Ma merde, alors il fait une affaire, hein. Il n'est pas raisonnable.
Ah ben oui, mais ça, de toute façon, il n'est pas question. Il a un crédit voiture, il a tout ça. Il dit que déjà, il ne s'en sort pas. Tu ne sais pas comment moi je fais. Eh ben oui, mais par exemple, un yaourt, j'en mange qu'un, la moitié d'un yaourt par jour pour dire ça me fera plus longtemps, ça me fera le moins impact, et puis c'est tout. Je me prive surtout.
Ben, c'est dommage que vous ayez donné la nue propriété à ce garçon.
Ah, mais c'est pas moi, c'est le notaire qui a fait ça.
Oui, d'accord, ça c'est un peu embêtant.
Moi, je n'ai rien demandé, j'ai simplement dit, je vous répète, quand j'ai fait l'acquisition de cette maison, quand le notaire m'a demandé, étant donné que je suis divorcée, je n'ai jamais reconstruit de foyer, qu'il mette ça sur le nom de pour mon fils pour plus tard. Mais je ne lui ai pas demandé,
oui,
je ne connaissais pas toutes ces lois.
J'ai compris,
rien du tout. Donc je ne connaissais pas ces lois. Il m'a dit bon, pas de problème. Et le jour de la vente de l'achat de la maison, il m'a dit j'ai fait le nécessaire, voilà, pour votre fils.
Ben,
mais il
n'a
même pas expliqué. Il y avait les anciens propriétaires qui étaient là. Il m'a rien dit.
Madame.
Il m'aurait dit madame, vous avez l'usufruit et votre fils la nue propriété. J'aurais demandé des explications et je lui aurais dit ah, surtout pas. Parce que si par exemple, pour une question quelconque, qu'il vienne arriver quelque chose à quelqu'un, je vais pouvoir disposer de la maison et pouvoir la vendre, faire ce que j'en ai besoin.
Madame, oui. Donc, votre fils, il ne faut pas compter dessus. Demandez à votre fils quand même s'il ne veut pas renoncer à la nue propriété. S'il renonce à la nue propriété, vous retrouvez la liberté.
Si le notaire me dit que non, parce que ce qu'il y a, il faudra repayer pour l'acte. Et comme il sait que je n'ai pas d'argent...
Oui, mais il n'y a pas de problème. Il faut trouver quelqu'un qui donne 25 000, par exemple, parce que vous la revendriez de suite en viager, puisque vous pouvez compter que sur vous. Quelqu'un, effectivement, qui rachète le viager, admettons, 25 000 euros, et qui vous donne...
Oui, je sais qu'on peut demander ce qu'ils appellent un...
Oui, et vous restez dans la maison jusqu'à la fin de vos jours, et vous touchez,
oui,
encore, et vous touchez encore un petit bail, petit loyer.
J'ai demandé au notaire, il me dit que c'est pas valable, que je peux pas le faire.
Mais vous pouvez pas le faire aujourd'hui, mais si votre fils, mis devant le fait, soit il paye les 25 000 et il prend un prêt,
ah non,
et
bah
vous
ça,
renoncez à l'usufruit, et comme il veut pas, eh bien, demandez-lui qu'il renonce effectivement à la nue propriété. Il y aura un acte de fait, mais on trouvera très facilement, franchement, parce que ça pourrait être une affaire intéressante pour vous, parce que vous restez dedans jusqu'à la fin de vos jours, et ça peut être une affaire intéressante, effectivement, aussi pour celui qui achète, vous voyez ?
Oui, d'accord.
Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir.
J'ai posé la question de ça au notaire, et le notaire m'a refusé, là aussi.
Non, mais parce qu'il...
C'est pour ça que je ne sais vraiment plus quel sein, comme on dit, me vouer. Hein.
Oui, de toute façon, je vous rappellerai, n'est-ce pas, d'une manière, effectivement, un peu plus... moins officielle que maintenant... Mais sachez déjà qu'il y a une solution à condition que votre fils renonce à la nue propriété. Hein.
D'accord.
Voilà, s'il renonce à la nue propriété...
Oui, mais je vous dis, le problème, c'est que le notaire refuse, puisque je lui ai demandé, c'est la première chose que je lui ai demandé. Je lui avais demandé aussi si je ne pouvais pas prendre une hypothèque, par exemple,
non,
de 30
non,
000 euros
non, sans,
sur
le,
la maison,
sans le fils,
et
madame.
Il m'a dit que non.
Mais sans le fils, vous ne pouvez plus rien faire. Vous êtes en usufruit, vous avez un bout de la propriété, c'est-à-dire la jouissance.
Si... Eh bien, je sais, lui, j'ai pris, mais s'il me l'avait expliqué, moi, je vous assure que j'aurais dit au notaire, ah non, monsieur, ça, je ne veux pas, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Moi, si un jour, j'ai besoin de la maison, de vendre ou faire quoi que ce soit, je veux en rester la propriétaire réelle.
Oui, mais on trouvera la solution. Si votre fils fait un papier, effectivement, et qu'il vous l'envoie, qu'il renonce à la nue propriété compte tenu des dettes, eh bien, après, on peut rentrer dans les tuyaux, chercher quelqu'un qui est intéressé par le viager, et vous avez retrouvé votre liberté, et vous n'aurez plus de dette, madame, tout en continuant
à
vivre.
Ah oui, parce qu'avec ce qu'on me donnera, je ne sais plus comment ils appellent ça, c'est un nom spécifique, c'est un panier, je ne sais plus comment ils appellent ça.
Ben, un bouquet et une rente,
ah
madame.
Ah oui, c'est un bouquet.
Voilà, mais vous en faites pas.
Alors, donc, avec le montant que je demanderai du prix du bouquet, je solde les crédits.
Voilà.
Et puis après, je suis tranquille.
Mais tout à fait, c'est comme ça qu'on va le faire et on va arriver au bout. Hein. Je vous rappellerai, bon. Vous laissez...
Oui, mais je vous dis, moi j'ai proposé, j'ai demandé au notaire.
Mais...
Et ce notaire, parce que quelque part, excusez-moi si je dis ça, mais quelque part, vous voyez, tous les problèmes que j'ai avec cette maison, parce que c'est une maison qui n'a pas été entretenu, donc j'ai plein de problèmes, j'ai eu un sinistre et tout ce qui suit. Comme c'est une maison, une ossature en bois, je vous dis pas que c'est un pignon qui a brûlé. Moi, je croyais que c'était un feu de cheminée, c'était le pignon qui brûlait. Et ce notaire, dans le fond, il n'a pas été correct.
Non, madame, on va faire un trait là-dessus. J'ai tout compris, je suis au même point que vous maintenant. Sauf que je panique pas parce que je suis pas dans vos habits. Et vous n'avez pas de raison de paniquer, parce qu'il y a une solution à condition que votre fils, devant la situation actuelle et devant la peur que lui, il a de devoir payer, vous lui dites, tu me fais un courrier recommandé, comme quoi tu renonces à cette nue propriété sans aucune contrepartie. C'est carrément
d'accord.
Une sorte d'annulation d'acte, et après on se met à la recherche, effectivement, d'une personne qui veut bien l'acheter en viager avec le bouquet équivalent en dette plus une petite rente. Voilà à peu
oui,
près le schéma.
Parce qu'elle est en vente depuis le mois de janvier, la maison.
Oui, mais puisque d'accord. Attendez, madame. Aujourd'hui, madame, on va oublier tout ça parce qu'on va prendre le contre-pied. On va tout à fait mettre sur des rails tout à fait différents de ce qu'il y avait de fait aujourd'hui. Le plus important, c'est que votre fils renonce déjà par un recommandé qu'il vous envoie par le facteur. Avec cela, on pourra aller plus loin et on pourra aller rejoindre le rêve que vous avez, être sans dette, être dans votre maison et avoir encore une petite rente en plus. Voilà, voilà. Madame. Et je vous rappellerai calmement.
Quand ils donnent un bouquet, bon, il y a le bouquet, ça c'est
oui,
une base,
mais, nous en
mais
sommes...
après tous les mois, ils doivent verser...
Une petite rente, oui, qui est évaluée.
Voilà.
Donc, Monsieur Knoll de Crésus vous appellera très prochainement et on fera un point ensemble. D'accord ?
D'accord.
Voilà. À bientôt.
Je vous remercie.
Au revoir.
Et excusez-moi pour tous les soucis que je vous...
Au contraire, on est là pour vous écouter et vous conseiller. Au revoir, madame.
Au revoir, monsieur. Merci.
Merci, Françoise, pour votre témoignage. Je vous rappelle le numéro de téléphone du standard de Radio Crésus, 03 88 16 19 69.
Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
Vous écoutez Radio Crésus et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont appelé au standard de Radio Crésus qui est le 03 88 16 19 69. Nous étions en compagnie de Jean-Louis Kiel, le directeur de Crésus Alsace, et de Michel Knoll, juriste, pour vous apporter des conseils en direct sur cette belle web radio. À très bientôt et merci à vous.
Give a damn about your dreams. everybody knew I did all I could. I did it right there and then. I've already confessed, no need to confess again. Gonna make a lot of money, gonna go up north. I'm planting, I'll harvest what the earth brings forth. The hammer's on the table, the pitchfork's on the shelf. For the love of God, God, take pity on you.